fréquence protestante. Chant contre chant.
Bonjour et bienvenue à tous. L'équipe de Chant contre Chant est heureuse de vous retrouver ce mois-ci où, en raison de la situation sanitaire, c'est par écran que nous sommes tous les quatre présents pour cette émission qui sera animée par moi-même, Jean Lot, et j'aurai en split screen devant moi Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Françoise Lot. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Et Jean-Michel Zucker. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jean.
On aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas réussi, mais il se trouve que la construction de notre émission d'aujourd'hui semble tout à fait dans le vent des grandes tendances médiatiques actuelles, on pourrait presque dire qu'elle est genrée. Deux des films dont nous allons débattre parlent en effet de femmes sans hommes ou presque. Le premier d'entre eux, Maternal, de l'italienne Maura Del Piero, se déroule dans un couvent de religieuses où sont accueillies des adolescentes enceintes. Dans le second, la femme s'est enfuie du coréen Hong Sang-soo. Trois hommes seulement, ils font une brève incursion, et on peut dire qu'ils ne sont pas maîtres. À l'inverse, le troisième, Drunk, du Danois Thomas Winterberg, est centré essentiellement sur quatre hommes, les femmes n'y faisant que de modestes et secondaires apparitions. Mais peut-être trouverons-nous plus grande diversité dans les coups de cœur qui suivront. Nous allons donc commencer avec Maternal, film qui a reçu le prix du jury œcuménique au Festival de Locarno en 2019, et qui est le premier film de fiction de son auteur, Maura Del Piero. Je l'ai dit, Maura Del Piero est italienne. Partie à Buenos Aires, tout en tournant des documentaires, elle enseigne le cinéma dans des institutions argentines qui prennent en charge des adolescentes enceintes rejetées par leur famille, l'avortement étant interdit en Argentine. Maternal est née de cette expérience. Le sujet ne paraissant pas à Maura Del Piero approprié un documentaire, elle décide de le traiter sous l'angle de la fiction, et c'est ainsi qu'est née Maternal. Son film se déroule dans un établissement d'accueil pour très jeunes mères célibataires, tenues par des sœurs catholiques, et se focalise avant tout sur cinq personnages. Deux jeunes mères, Fatima, enceinte et déjà mère d'un petit garçon, Michael, et son amie Lu, mère de la délicieuse Nina, 4 ans. Et il y a encore une toute jeune novice, Paola, fraîchement arrivée dans la maison. Un jour, Lu disparaît, et Paola, qui s'est attachée à Nina, la prend sous son aile. Alors Françoise, documentaire ou fiction ?
Question piège, car Maura Del Piero est reconnue jusqu'ici pour ses documentaires, mais elle revendique le terme de fiction pour ce premier long métrage et nous ne pouvons qu'acquiescer. Ce film, qui est classifié comme drame, serait plutôt à mes yeux un mélodrame, exercice périlleux s'il en est, donc c'est bien une fiction, mais une fiction inspirée d'un problème de société en Argentine, à savoir l'accueil en foyer d'adolescentes enceintes ou déjà mères d'un enfant. Comme tout mélo, celui-ci délivre une très forte charge émotionnelle et repose sur des contrastes appuyés qui doivent souligner le pathétique, le tragique de la situation qui nous est présentée. Alors, d'une part, le monde clos, réglementé, sécurisant des religieuses dans cette très belle demeure toute blanche, et d'autre part, le monde tourmenté de ces adolescentes qui se sentent enfermées et qui ruent dans les brancards. D'un côté, les religieuses dans leurs sages robes blanches, de l'autre, de très jeunes femmes, à peine vêtues et copieusement maquillées. D'un côté, la chasteté choisie, de l'autre, une hypersexualité violemment revendiquée. D'un côté, la Sainte Famille et la Vierge à l'enfant, et de l'autre, de jeunes mères, pas vierges du tout, et une famille en lambeaux.
Et la maternité dans tout ça ?
La maternité, eh bien, c'est le cœur du film au sens premier du terme. La maternité trop précoce pour ces très jeunes mères, maternité pas choisie et qui fait brutalement basculer leur vie. Alors Fatih, elle est sage, triste, réfléchie. Elle se fait douce et tendre avec son petit Michael et elle s'appuie sur Paola qui lui sert justement de sœur, de grande sœur, bienveillante. Par contre, Lu, c'est une jeune mère immature, elle se révolte contre cette nouvelle vie dont elle ne veut pas, Lu est en colère, elle se fait violente, elle est grossière, elle veut partir d'ici, ce qu'elle fait d'ailleurs en laissant au foyer la petite Nina, 4 ans, qui n'y comprend rien. Et c'est dans les bras de sœur Paola que la petite fille va trouver l'amour maternel qui lui manque, et c'est en prenant soin de l'enfant que sœur Paola voit grandir en elle cet amour fou que l'on dit maternel et auquel elle n'a pas droit. Alors nous le savons, cette histoire ne peut pas bien se terminer. Il y aura du chagrin, beaucoup de chagrin, chagrin d'enfant, chagrin d'adulte, et c'est là qu'est le mélodrame, là aussi que se trouve le drame social.
Et ce serait là l'aspect documentaire du film de Mara Del Perro.
Tout à fait. Et comme tu le disais, elle a été sur le terrain pendant 4 ans, proposant des cours de cinéma dans différents foyers d'accueil pour jeunes mères célibataires. Et c'est là qu'elle a vécu en direct ces drames intimes qui interrogent d'une part la responsabilité des adultes, car ces jeunes mères sont totalement coupées de leur famille, et d'autre part celle de l'Église catholique qui interdit et la contraception et l'avortement, et tout autant la responsabilité de la société, de nos sociétés et de leurs institutions. C'est un film ultra sensible et tout autant intelligent.
Jean-Michel, est-ce que tu partages cette analyse de Françoise ?
Hélas, non, pas vraiment, parce que moi j'ai été gêné par la couleur documentaire du film, contrastant avec une narration fictive, alors comme on l'a dit, dont le déroulement pour moi me paraît trop attendu. La bonne jeune mère, la mauvaise jeune mère, la jeune bonne sœur en manque de maternité et au dessin très schématique, les vieilles nonnes caricaturales. Certes, la réalisatrice s'interroge avec empathie sur les tourments des mères adolescentes enfermées et le vécu de leur maternité, sur la frustration éventuelle des jeunes sœurs qui vont prononcer leurs vœux. Tout cela est vrai, mais je dois reconnaître que personnellement, je n'arrive pas à m'intéresser à ces 3 gamines-là, précisément à travers le type de portrait que propose d'elles la réalisatrice.
Marie-Jeanne, même réaction ou différente ?
Alors, je dirais de maternal, que c'est un film sage, très classique, et qui, c'est un peu le défaut que je lui attribuerais, qui manque d'audace, malgré le sujet traité qui comporte quand même des aspérités très sombres. Alors, on peut dire que c'est un bon premier film, sans maladresse, avec de bons acteurs bien dirigés. Et dans ce huis clos qu'on ne quitte pratiquement pas, hein, jamais, la réalisatrice a réussi à faire cohabiter 2 mondes très différents. Mais il y a un point commun chez toutes ces jeunes filles, aussi chez ses sœurs, et notamment chez Paola, un besoin d'amour qui est très émouvant. Alors, on n'est pas dans Aung San Suu, hein, c'est évident. C'est un film qui n'est pas dépouillé, qui foisonne de cris, de dialogues, mais tout cela confine un peu aux stéréotypes et manque un peu de nuances. C'est dommage parce que sur un tel sujet, on se serait attendu à plus d'aspérité, je l'ai dit. Et même chez, par exemple, Luciana, qui est un personnage révolté et par certains côtés qui peut être attachant, mais en fait, elle est vraiment sans nuance. Cela dit, c'est un film qui est plaisant à regarder. Je ne rejette pas du tout.
Moi, je serais quand même plus louangeur. Je suis bien d'accord que c'est un film qui manque un peu de nuance, avec des personnages un petit peu simplistes. Mais il y a deux choses qui m'ont beaucoup plu dans ce film. D'une part, cette espèce d'analyse des différents types de maternité. Moral d'Opéra parle avec ironie de la famille modèle et que son fils reprend parlant de famille moderne. Et je crois que c'est bien là un peu l'intérêt du film, c'est toute la diversité de situations entre mère et enfant qui sont évoquées. Et c'est un aspect intéressant du film. Il y a cet aspect d'avoir des sœurs pour qui cet amour, c'est la charité chrétienne et ça ne doit pas aller plus loin. Et il y a Paola qui est déchirée entre son engagement religieux et son affection pour Nina. Et puis enfin, il y a ces 2 jeunes adolescentes qui sont des mères tout à fait différentes. Mais au-delà de cette analyse de la maternité, ce que je trouvais passionnant dans ce film, c'est son côté. Je trouve que c'est un film sur l'enfermement. Je trouve que c'est que Nora Del Perro décrit l'univers d'un huis clos absolument remarquable. Il y a ce bâtiment où on entre, dont on ne sort jamais, juste en deux fois. Il y a la Paola qui arrive, la porte s'ouvre, se referme sur elle. Elle n'en ressort que beaucoup plus tard avec Nina dans ses bras. Et au-delà de cet enfermement matériel, si je puis dire, il y a tout l'enfermement des différents personnages qui sont tous enfermés dans des statues et dans des situations dont elles ne réussissent pas à se sortir. Aussi bien les religieuses qui n'ont pas droit au sentiment d'une humanité ordinaire. Et il y a Paola qui est déchirée entre sa religion et son amour. Et puis il y a les filles. Et c'est ça que j'ai trouvé absolument passionnant dans ce film.
Je crois que ce film, on l'accepte si on le considère comme un mélodrame. Là, tous les excès, tout ce qui est surligné et qui peut en effet être agaçant, je me dis qu'à partir du moment où on le prend comme un mélo, ça fait partie des codes du mélo. Ce sont des personnages qui sont un peu caricaturés et en forte opposition. Ça peut agacer. Mais c'est peut-être
oui, parce que c'est un mélo, mais c'est appuyé sur des notions documentaires. Alors, il vaut mieux un bon documentaire qu'un mauvais mélo.
Jean-Michel.
Non, mais je trouve que la fiction apporte ce que n'apporte jamais un documentaire, c'est-à-dire une réalité humaine.
Le documentaire est dans la réalité humaine beaucoup plus que la fiction.
Oui, un documentaire peut apporter une grande réalité humaine et émotive.
Là, on entre dans le débat documentaire-fiction.
Mais oui, c'est mésestimer le documentaire qui est toujours sous-apprécié dans la critique du cinéma. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça.
Non, non, mais je suis bien d'accord avec toi qu'il faut défendre le documentaire, Jean-Michel. Là, je trouve que ce choix de la fiction, pour moi, était, pour des raisons que j'ai dites, assez intéressante. Enfin, bon, on va peut-être passer maintenant au film suivant. Il s'agit bien sûr d'un film complètement différent. Place maintenant donc à La femme qui s'est enfuie du coréen Hong Sang-soo, créateur prolifique s'il en est, car en 24 ans de carrière, ce cinéaste de 60 ans a réalisé 27 films. Et il commence ses études à Séoul, les continue aux États-Unis, fait quelques courts-métrages. Mais le choc qui détermine sa carrière vient de sa découverte du journal incurieux de campagne de Robert Bresson. Il réalise son premier long-métrage « Le jour où le cochon est tombé dans le puits » en 1996. 26 autres viendront ensuite. Alors si pendant longtemps il a paru recommencer inlassablement le même film, creusant avec obstination dans le même sillon, on peut remarquer qu'une sensible évolution est apparue ces dernières années. Ceci dit, d'un film à l'autre, il apparaît avant tout comme un extraordinaire peintre de la femme et des relations du couple, avec des films au scénario minimaliste, à commencer par celui de ce film d'aujourd'hui, « Cette femme qui s'est enfuie », qui tient en une phrase. À l'occasion de l'absence de son mari pour des raisons professionnelles, une jeune femme, Gam Yi, jouée par Kim Min Yi, l'actrice fétiche de Hong Sang-soo et son épouse, rencontre successivement trois de ses anciennes amies. On ne peut faire plus sobre, n'est-ce pas Marie-Jeanne?
Oui, effectivement, dans ce dernier film de Hong Sang-soo, il ne se passe apparemment rien, des conversations banales à table sur les mérites de la viande grillée, sur le paysage, sur l'importance des animaux, des conseils de santé, des confidences aussi sur les déboires amoureux et les désillusions, et au cours desquelles, comme souvent chez Hong Sang-soo, on mange bien et beaucoup. Et pourtant, c'est un film très attachant et qui dégage une sérénité, une douceur dans laquelle on se laisse facilement glisser. Ensuite, d'ailleurs, au fil de ces conversations du quotidien, on voit des femmes qui se dévoilent, elles racontent les blessures de leur vie et des blessures essentiellement dues à leur rapport difficile aux hommes.
Et justement les hommes dans cette histoire.
Ah oui, les hommes. Les hommes sont singulièrement absents dans ce film. Ils apparaissent seulement à trois reprises, mais alors ils sont minables, ridicules, fatigants, perturbateurs. Et d'ailleurs, le réalisateur ne les filme que de dos ou de trois quarts. Alors que par ailleurs, il se dégage des rencontres entre Gam Yi et ses trois amis, une sororité bienveillante et très complice. Ses amies, d'ailleurs, sont assez bavardes, elles se racontent facilement, mais Gam Yi, elle, ne dit pas grand-chose. Elle répète seulement par trois fois que c'est la première fois depuis 5 ans qu'elle est séparée de son mari, qui veut toujours rester près d'elle. Alors, elle le dit avec douceur, mais on a l'impression que cette possessivité n'est pas tout à fait à son goût et à trop répéter son propos, on finit par douter un peu de sa sincérité.
Alors, serait-ce elle, cette femme dont parle le titre ?
Ah ben écoutez, on peut se poser la question, qui est donc cette femme qui s'est enfuie? Alors, est-ce la voisine dont parle rapidement une de ses amies comme un ragot qui a abandonné mari et fille et qu'on ne voit jamais? Ou bien Gamki? Ou bien aussi toutes ses amies qui fuient leurs échecs sentimentaux? Alors, le réalisateur laisse la question ouverte, comme souvent, mais il a affirmé dans une interview: peut-être que j'avais tout simplement le sentiment que tous les personnages féminins fuient quelque chose d'oppressant et de malfaisant. Voilà.
Gamki, fuirait-elle une relation trop terne et insatisfaisante?
Ah ben écoutez, oui, je pense que c'est en toute fin de film qu'on perçoit les blessures de Gamki, elle qui jusqu'à présent avait l'air lisse et bien dans son couple. Sa troisième amie a épousé un écrivain qu'elle a autrefois aimé. Et un jour, elle va voir un film dans un centre culturel et elle tombe sur cet écrivain en sortant. Après un échange très peu aimable, elle s'en va. Mais elle se ravise et revient dans la salle voir le film qu'elle avait quitté et qui présente à l'écran le flux et le reflux des vagues sur le sable, comme pour calmer ses émotions. Alors, c'est un film véritablement tout en douceur, en mélancolie indéfinissable, et surtout qui tire sa grâce et sa beauté d'une forme d'épure, d'une très grande sobriété.
Alors, Françoise, est-ce que toi aussi tu étais sensible au charme de ce film qui est on ne peut plus sobre et plus minimaliste?
Ah oui, moi j'adhère tout à fait à l'analyse de Marie-Jeanne, tout à fait. J'ai adoré ce film, c'est l'un des plus beaux que j'ai vu ces dernières semaines. J'aime beaucoup Aung San Suu, hein, mais cette façon de travailler sur le non-dit, de nous faire un film tout entier sur du non-dit, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'aime ce côté déroutant, insaisissable, impalpable, j'adore, c'est magnifique. J'ai aimé l'émotion qu'il nous délivre, qui n'a rien à voir avec l'émotion d'un mélo. Cette émotion que j'ai ressentie particulièrement dans le dernier film, quand on voit Gamki levée dans son fauteuil de cinéma, comme dans une bulle de protection, et qu'elle se plonge à la contemplation de la mer qui est l'ouverture à l'infini, ce qu'elle ne connaît pas dans sa vie, c'est très, très beau.
C'est magnifique.
Il a vraiment l'inconscient au bout de la caméra, c'est magnifique.
Oui, d'accord.
Jean-Michel, aussi, tu partages ou tu critiques?
Je ne critique pas. Simplement, je trouve que la différence des films précédents, qui étaient des variations sur les thèmes que vous avez décrits, c'est toujours la même chose, mais c'est toujours un peu différent, c'est vrai, et qui m'avait enchanté. Je suis toujours extrêmement laudateur du cinéma de Aung San Suu. J'avoue que cette fois-ci, je suis vraiment resté sur la berge et j'en ai été bien triste.
Ah bon?
La conversation Aung San Suu-esque que j'ai trouvée cette fois-ci bien répétitive ne m'a pas captivé, même parfois endormi. J'étais peut-être dans un mauvais jour. Est-ce parce que le soju, donc l'ivresse en était absente, peut-être, mais en tout cas, en vous écoutant, je me promets d'y retourner.
J'espère, Jean-Michel.
Oui, moi aussi, enfin, je veux dire que c'est un film que j'ai énormément aimé. Moi, quand je suis rentré dedans, je n'ai pas du tout resté sur la berge comme Jean-Michel. Je te conseille de retourner, Jean-Michel. Ce qui me frappe, comme toujours, si on s'en souvient, c'est que derrière la minceur de surface chez Aung San Suu, il y a une profondeur incroyable. Il y a toujours le dit et le non-dit. Il y a le film du dessus et le film du dessous. Le film du dessus, c'est ce dont on parlait Marie-Jeanne, cette espèce de conversation insignifiante ou sans intérêt, et où les mots, il faut longtemps attendre pour qu'il y ait des répliques et commence à dire quelque chose. Mais en dehors de cette banalité, de ce que j'appelle le film du dessous, il y a le film du dessus, il y a le film du dessous, et qui est dû à la mise en scène, qui est dû vraiment au cinéma. Et je vois au moins deux niveaux à ce film, du dessous. Il y a d'abord un aspect métaphorique très beau, avec de multiples images. Je pense par exemple à cette magnifique scène où Gamki ouvre la fenêtre de chez son ami pour voir l'extérieur, comme si elle étouffait, comme si on ne peut pas mieux rendre le sentiment de confinement qu'elle éprouve à ce moment-là. Alors ça, cet aspect métaphorique, on le retrouve aussi dans le plan dont parlait Françoise tout à l'heure, à savoir ce plan de mer et cette petite île. Mais il y a encore un troisième niveau qui est ce truc très curieux chez Aung San Suu, cette façon de s'approcher brutalement par un petit zoom, cadrant brutalement un verre ou un visage, sans raison apparaître, mais qui est un effet émotionnel sur le spectateur. et qui n'est pas rationnel. Si bien que je dirais que chez Aung San Suu, il y a en quelque sorte trois niveaux. Il y a en quelque sorte ce qui se dit ou qui se montre et qui s'interprète, ce qui se dit que se montre et qui dit clairement, ce qui se voit et qui s'interprète, et enfin ce qui se ressent mais ne s'explique pas rationnellement. Voilà ce que j'ai aimé dans ce film.
Très belle analyse, Jean, oui, effectivement.
C'est un film
j'aurais
vu
deux niveaux, pas trois, mais voilà.
C'est un film à voir plusieurs fois de suite.
Oui, parce que, et je vous assure que, bon, Jean-Michel était peut-être dans un mauvais jour, mais on ne dort pas parce qu'on est pris, au début on se dit, mais enfin bon, d'accord, elle parle, d'accord, comme nous parlerions nous-mêmes avec nos amis, mais et ensuite on perçoit effectivement le film du dessous, cette profondeur, cette analyse des sentiments, c'est magnifique.
Je comprends qu'on puisse beaucoup s'ennuyer.
Un cinéma très épais, malgré la finesse qui semble apparente du propos.
Oui, on pourrait même dire l'insignifiance du propos.
C'est ça. Oui, à
tout à fait. Je comprends qu'on puisse beaucoup s'ennuyer. C'est vrai, je comprends très bien. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Il faut plonger en dessous.
Oui, sans doute. Il faut plonger en dessous du film. En apnée.
Mais Jean-Michel parlait tout à l'heure de répétition. Effectivement, en chanson, d'ailleurs, il y a toujours une répétition. En général, elle est différente. En général, on a un film et ensuite, après, on recommence ce film plus d'une autre façon. Et là, on retrouve la répétition, mais comme tu l'as dit, différente. Déjà par les trois volets.
Mais oui. Non, mais je vais y retourner.
Oui, il faut y retourner. Il vaut la peine.
Donc deux films à revoir, hein, là.
Ah, sûrement pas le premier. Sûrement pas le premier.
Bien, on va passer maintenant à une petite pause musicale pour reprendre un petit peu nos esprits. Donc, on se retrouve après cette petite pause. Fréquence protestante, nous allons reprendre avec Drunk, ce film du réalisateur danois Thomas Vinterberg. On se souvient de l'entrée fracassante en cinéma de Thomas Vinterberg avec son premier film Festen, à travers un récit d'inceste familial et dans le climat médiatique généré par la création du mouvement cinématographique Dogma qui voulait révolutionner le cinéma, l'auteur jetait un énorme pavé dans les eaux tranquilles de la mare de la société danoise. Depuis, Thomas Vinterberg s'était pas mal assagi, naviguant par mer calme entre indifférence et demi-succès. Il revient à ses principes aujourd'hui avec ce film prônant une soulographie dont la moralité est étonnante en autant de sécurisation massive. Voilà de ce dont il s'agit, quatre mousquetaires de l'enseignement danois, Martin, Tommy, Peter et Nikolai, décident de partir en guerre contre l'ennui et la morosité de leur existence et de mettre en œuvre la théorie d'un philosophe norvégien selon lequel la vie ne prend son sens qu'à partir de 0,5 g d'alcool dans le sang. Jean-Michel.
Je conteste immédiatement les termes de film prônant une soulographie d'une moralité étonnante. De fait, dans le droit fil du manifeste Dogma 95 qui visait à faire sortir la vérité des personnages et des scènes, fût-ce au détriment de tout bon goût et de toute considération esthétique, Drunk, ivre en français, n'est pas politiquement correct, mais c'est après le choc de Festen, il y a plus de 20 ans, le film le plus important de ce réalisateur non-conformiste.
Bien, mais de quoi s'agit-il alors, Jean-Michel ?
Eh bien, le point de départ de l'auteur vient effectivement de cette curieuse hypothèse un peu tordue, attribuée à un psychologue norvégien bien réel, Finn Skjerderud, et de la constatation que de célèbres artistes et écrivains comme Tchaïkovski ou Hemingway, pour ne pas parler du grand Churchill, ont pu trouver courage et inspiration dans la dive bouteille. À l'occasion d'un dîner festif organisé pour les 40 ans de Nikolai, les quatre compères, pour s'extraire de la morosité de leur vie quotidienne, vont décider d'examiner scientifiquement, et en notant leurs observations, si et comment l'obtention permanente d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang peut les libérer de leurs inhibitions de toutes sortes, et notamment des amours dans le couple et pauvreté de leurs relations avec leurs élèves. Situation que les images illustrent avec pertinence et sobriété dans le cas du personnage principal, Martin, à qui Mads Mikkelsen prête sa présence magnétique, haute dégaine et visage taillé à coups de serpe. Il a en effet perdu le contact avec sa femme, qu'il ne fait que croiser puisqu'elle travaille de nuit, comme avec ses lycéens et leurs parents, qui le ressentent comme à l'ouest.
Mais comment celui-ci, ses amis, s'en tirent-ils alors ?
Martin et ses amis se jettent alors avec une égale conviction dans cette étrange expérimentation dont ils essayent, dont ils espèrent, tel de nouveau Faust, la renaissance de l'enthousiasme de leur jeunesse. Dans un premier temps, de savoureuses scènes individuelles et collectives témoignent bien de leur retour à tous quatre à une vie moins terne et plus partagée, même s'ils devront revenir à la réalité lorsqu'ils perdront, hélas en public, le contrôle de leur projet. Et si certaines scènes bachiques du film peuvent évoquer une forme de célébration de l'ivresse, on y voit aussi un portrait lucide de ces effets dévastateurs, bien que n'affleure aucune intention pédagogique, ni que soit porté aucun jugement.
Mais finalement, quelles sont pour toi les qualités humaines de ce film ?
Bien, de façon paradoxale, c'est un film très contrasté, qui traite, et souvent avec humour, comme dans la série de plans de hauts dirigeants politiques publiquement ivres, d'un sujet sérieux et bouscule, certes, le spectateur, mais ne le choque à aucun moment. Une mise en scène audacieuse et efficace et un montage serré procurent à Drunk un rythme continuellement soutenu, bourré d'énergie vitale. Oser, c'est perdre pied momentanément, ne pas oser, c'est se perdre soi-même, dira un des personnages en citant Kierkegaard. Et malgré ses péripéties parfois tragiques, le film se veut un hommage à la pulsion de vie qui culminera avec l'épanouissement du désir de danse de Martin dans la séquence finale. La chaleur des émotions qui émanent de ses quatre amis, comme des personnages secondaires, me paraît merveilleusement communicative.
Oui, merci Jean-Michel. Françoise a pu voir ce film, mais toi Marie-Jeanne, est-ce que tu dirais toi aussi qu'il s'agit d'un hymne à la pulsion de vie ?
Je dirais que ce film, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Michel, ce film m'a gênée. Notamment, par exemple, je pense aux premières images où on voit une bande de jeunes gens qui font un concours. Alors, le concours consiste à transporter des caisses de bière, à les boire pendant qu'ils courent, et ceux qui ont bu le plus, ceux qui ont bu la totalité de la caisse, sont gagnants. Alors, je veux bien, j'ai trouvé ça assez curieux quand même. Et puis, bon, je ne dis pas que c'est un mauvais film. Hein. Il y a tout le talent de Vinterberg, il y a aussi le talent de quatre acteurs, spécialement de Mads Mikkelsen. Mais je me demande, et peut-être Jean-Michel me répondra, je me demande vraiment ce qu'a bien voulu dire le réalisateur. On est loin d'une satire sociale à la Ferreri ou à la Lars von Trier, et si c'est pour dire que l'alcool c'est pas bien, je ne suis pas sûre qu'il aboutisse à ce résultat, parce que on les voit tellement plus drôles et performants quand ils ont bu. Alors est-ce que pour dire que ça n'apporte que des malheurs, mais la fin du film est assez curieuse, puisque Martin, qui a pourtant perdu sa femme, qu'il est en train de récupérer, replonge, je veux bien, enfin peut-être momentanément, mais replonge dans l'alcool au cours de cette fête du baccalauréat de ses étudiants qui ont tous réussi. Donc je ne sais pas bien ce qu'il veut dire, et je trouve qu'on lève beaucoup le coude, et enfin, ça m'a gêné. C'est un film.
Oui, moi, je veux dire, personnellement, enfin, c'est un film qui m'a mis très mal à l'aise. Oui. Moi, j'ai trouvé ce film profondément désespéré. Désespéré et mal foutu. Désespéré parce qu'au fond, ce personnage de Martine, qu'on trouve plongé dans la dépression au début, ainsi d'ailleurs pas mal, un peu ses copains, il ne s'en sort pas. Il met en place finalement une solution qui le conduit dans le mur. Je trouve que le feel-good movie par lequel se termine est tout à fait injustifié, parce que rien ne l'amène. Rien ne justifie le fait qu'il retrouve sa famille, de même rien ne justifie le fait que la femme de Nicolas soit plus sympa. Quant à Tommy, le prof de gym, il finit par se suicider, donc on ne peut pas dire que c'est très prometteur d'avenir. Bon, ça c'est. Et puis le film de la fin, enfin, cette scène de la fin, moi je la trouve vraiment désespérée parce que la dernière image, c'est cette image prise, fixée, arrêtée, cette image fixe où on voit Martine s'envoler pour sauter dans la mer et l'image est brutalement arrêtée. Moi, cet arrêt brutal de la vie, ça m'a posé question. Quant au film, quant à en fait, absence de sens, je suis un petit peu comme Marie-Jeanne. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Je ne peux pas comprendre du tout ce qu'il a voulu faire. Voilà.
Oui, il faut pas chercher un message. Il n'y a pas de message dans ce film. Il y a ni de volonté de faire l'apologie de l'alcool et de l'ivresse, ni au contraire d'avoir un regard puritain sur ceux qui le pratiquent. Il y a simplement la constatation que la tristesse de la vie quotidienne, dans bien des cas, encourage à essayer de la dépasser, et il nous propose une fable, comme dirait Françoise, un conte. On n'est pas dans un réalisme du tout, on est dans une fable, et il nous montre que, par un propos nuancé, qu'on peut essayer de transcender cette vie quotidienne, mais qu'évidemment on est guetté par l'excès.
Et oui, j'entends bien, mais ce qui m'a vraiment gêné, c'est enfin une des choses qui m'ont gêné, c'était l'absence de genre. On commence un peu comme une comédie, ça se termine par une tragédie, et entre les deux, qu'est-ce que le média a voulu prouver avec cet alcool? Bon.
La vie, c'est comme ça, c'est à la fois une comédie et une tragédie. Il ne faut pas s'en étonner. Et la dernière image est une image splendide d'aspiration à un certain absolu où on voit un corps arrêté en plein vol. Et ça me paraît très, très emblématique de la tonalité du film. Et surtout, c'est un film dont les images donnent quand même beaucoup de joie au final, parce qu'il y a cette amitié qui les unit et qui finit par leur permettre de faire de belles choses avec leurs élèves. Et il n'est que de voir le professeur d'éducation physique.
Oui, mais ce qui est particulièrement...
Marie-Jeanne, je t'arrête tout de suite, il faut qu'on passe au coup de cœur. Sinon, tu n'auras pas... on va donc passer...
Sinon, ce sera avec l'alcool, c'est tout.
On va donc commencer comme coup de cœur par Les Apparences que Françoise a choisies. Vas-y, Françoise.
Alors là, vous allez être d'accord avec moi, j'en suis sûre. Ils sont vraiment imbuvables, tous. Alors qui? Eh ben, un petit groupe d'expats français, cadres d'entreprise, personnel d'ambassade. Bref, des expatriés classe sous confort dans la belle ville de Vienne. Appartements luxueux, revenus haut de gamme, on dîne les uns chez les autres, on discute de tout et surtout de rien. Les femmes sont élégantes et toutes semblables, robes, bijoux et coiffures, dernier cri. Les langues de vipère s'en donnent à cœur joie et surtout on ment tout le temps. On ment sur son passé, sur ses sentiments, son identité. Eve, par exemple, superbement interprétée par Karine Viard. Elle vaut le déplacement. Eve qui rembarre brutalement sa pauvre mère quand celle-ci l'appelle Evelyne, oubliant que sa fille, maintenant qu'elle est l'épouse d'un brillant chef d'orchestre, exige d'être appelée Eve parce que c'est tellement plus chic. Eve et Henri adorent cette vie viennoise. Allant de réception mondaine en spectacle, ce couple BCBG a tout pour être heureux jusqu'au jour où Eve a la preuve que son mari la trompe. Et qui plus est avec l'institutrice de leur fils. Il s'est donc entiché d'une roturière. Comment sauver les apparences, se demande Eve, toujours amoureuse de son mari et atterrée par l'événement. Et comment éviter le scandale au sein de ce microcosme auquel elle est si fière d'appartenir? Glaciale, elle encaisse, se venge, s'enferme dans des imbroglios à la Chabrol, voire Woody Allen, c'est dire si c'est réjouissant. Sauf peut-être lors du revirement final où Eve en deviendrait presque pathétique. Entre vaudeville et études de mœurs qui virent à la comédie grinçante, ce film confirme bien le talent de Fitoussi, auteur de comédie française de fort bon niveau. C'est une comédie humaine, intelligente et drôle. On rit souvent, parfois d'un rire un peu crispé, mais c'est voulu. Pas de réelle causticité, pas de vraie méchanceté dans cette comédie. À la différence d'un Chabrol, Fitoussi se contente d'observer. Et il nous laisse ainsi le soin de juger.
Quelques réactions très rapides, parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Jean-Michel, tu veux dire quelque chose?
Oui, moi je rends hommage au talent de Karine Viard, que j'aime beaucoup, je suis d'accord avec toi François. Ceci étant dit, dans cette situation à la Chabrol ou à la Clouseau, le scénario de ce drame bourgeois est bien souvent tarabiscoté et la mise en scène n'apporte pas de vraies surprises, malgré les rebondissements. Les personnages sont bien peu attachants et aucun ne suscite l'empathie, si bien que dans de nombreuses scènes, je me suis senti gagné par l'ennui.
Oui, enfin, moi j'ai bien aimé ce film, j'ai beaucoup aimé ce film. Je trouve que finalement la lignée Chabrol est évidente, mais j'ai trouvé finalement également que surtout ce qu'il avait voulu faire, c'est-à-dire montrer une société où seules les apparences comptent, avait été très, très, très réussi. Voilà, on va passer au coup de cœur suivant, c'est Josette que nous présente Marie-Jeanne.
Oui, effectivement, je voudrais vous parler du film Josette. Avec ce premier long métrage, Aurel, qui est dessinateur de presse pour Le Monde et Le Canard Enchaîné, signe un magnifique film d'animation qui retrace le destin de Josep Bartoli, qui a été un dessinateur de presse catalan et qui était responsable du Parti communiste catalan. À l'issue de la guerre d'Espagne en 1939, il a dû naturellement fuir son pays et s'est retrouvé parmi les 450 000 réfugiés dans le sud de la France. Alors, loin d'être accueillis à bras ouverts par la patrie des droits de l'homme, ils ont été parqués dans des camps de concentration, notamment ceux d'Argelès et de Rivesaltes, de triste mémoire d'ailleurs, où ils ont survécu dans des conditions véritablement humiliantes et indignes, pouilleux, en haillons, mal nourris, mal soignés et même violentés, et surtout, en butte à un effroyable racisme de la part des petits gendarmes qui les gardaient. Alors, dans cette désespérance, une lueur d'espoir quand même, un gendarme plein de compassion, Serge, qui se lie d'affection pour Joseph et qui lui fournit papier et crayon pour dessiner. Alors, Aurel réalise là un grand film dessiné, comme il aime à le dire lui-même, d'une grande force politique et qui met l'accent sur une page particulièrement déshonorante de notre histoire et aussi qui met l'accent sur la transmission de la mémoire, parce que le film est sous forme de flashback qui alterne entre présent et passé, de Serge mourant qui raconte cet épisode de sa vie à son petit-fils, au destin exceptionnel de Joseph. J'ai trouvé que c'était un film splendide, chargé d'une très grande poésie et qui, tout en nous parlant histoire, éclaire notre présent. Il est d'ailleurs dédié à Tinius, ce dessinateur assassiné lors des attentats contre Charlie Hebdo, et je trouve que c'est un film à voir absolument.
Eh bien, merci. Merci Marie-Jeanne. Jean-Michel, tu voulais nous parler d'un pays qui se tient sage.
Oui, c'est un coup de cœur que j'ai eu pour un documentaire et qui est une nouvelle forme de cinéma direct et engagé. Un contre-récit surgit des réseaux sociaux et des téléphones. David Dufresne, longtemps reporter pour Libération et membre de l'équipe fondatrice de Mediapart, après avoir traité des violences policières dans son travail de lanceur d'alerte avec Allô, Place Beauvau, puis dans un roman Dernière Sommation, et avoir réalisé de nombreux web-docu et documentaires TV engagés dans le passé, propose au cinéma un pays qui se tient sage. C'est un film collectif qui appelle à la discussion de la phrase du sociologue Max Weber « L'État revendique le monopole de la violence physique légitime » pour contester ce monopole dans le film quand l'État n'est plus légitime. Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet d'une répression de plus en plus brutale. Et avec son dispositif cinématographique, l'auteur ambitionne à la fois de mettre le spectateur en immersion dans ces événements et de filmer la pensée. Ainsi, le film fait-il alterner de nombreuses images brutes et parfois chaotiques et éprouvantes, tournées par des manifestants, images dont 95% sont sourcées, datées et créditées, et la plupart restituées sans coupe, avec, au contact de ces images, les conversations deux à deux de plus d'une vingtaine de citoyens de toutes catégories sociales et professionnelles qui approfondissent, interrogent et confrontent leur point de vue sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'État. Le résultat de cette démarche est saisissant.
François, tu voulais réagir?
Oui, moi j'ai trouvé ce film accablant. accablant, en effet, réseaux sociaux, téléphone. Moi, c'est pas tellement ce que j'affectionne pour m'informer. Mais accablant de violences, qui sont des violences à l'image de la société où finalement tout le monde a raison. Tous les gens qui sont interrogés ont raison. Et en même temps, toutes ces violences sont parfaitement explicables et parfaitement inexcusables. Les uns étaient des héros en 2015, sont des salauds en 2020. Les manifestants ont toutes les raisons de manifester, mais par ailleurs, ce qu'on dit de telle façon qu'ils perdent leur public. Je pense que c'est un film, moi, ça m'a accablé.
Marie-Jeanne, toi aussi, tu voulais réagir.
Je trouve très intéressant dans ce documentaire, c'est qu'au-delà des images très, très choquantes, il a quand même élevé le débat. Il y a des discussions très, très intéressantes avec des sociologues, des historiens, des journalistes et des professeurs de droit constitutionnel, ce qu'est justement la notion de violence légitime, violence légale, police d'État, toutes ces questions qui sont vraiment très passionnantes à examiner d'un point de vue intellectuel. Alors, je ne regrette qu'une chose, c'est qu'il manque un volet sur la question qui aurait dû être posée, à mon avis, et qui est la suivante. Quelle attitude doit avoir l'État, donc la police d'État telle qu'elle est aujourd'hui, lorsqu'il se trouve devant des casseurs qui utilisent des méthodes de guérilla urbaine? Comment répondre?
Bien, dans la réponse…
Donc, c'est un documentaire vraiment…
C'est une question.
Oui, exactement ça.
C'est exactement ça. Bien, moi je vais terminer en parlant d'un film dont j'ai beaucoup apprécié l'originalité. Il s'agit de Akhbatan, par la réalisatrice israélienne Keren Ben Raphaël. Alors tout commence par ce qui semble une scène d'amour, on ne peut plus classique. Il y a un homme et une femme couchés l'un à côté de l'autre, alternativement filmés en chant contre chant, à voir leur visage, à entendre les soupirs, on croit qu'ils sont en pleine relation sexuelle partagée. Mais alors des pleurs d'un enfant mettent fin à cette intimité, la femme se lève, et l'on comprend alors que les deux amants ne sont pas ensemble, que chacun est filmé par une caméra qui envoie à l'autre, par Internet, le plan qu'elle cadre. En fait, ces deux amants sont à 3000 km l'un de l'autre. Julie à Paris, lui, Yuval, à Tel Aviv. Ils ne se voient pas et ne se parlent que par des échanges du type Skype, mais un Skype très haut de gamme. Hein. Julie travaille dans une entreprise d'aménagement intérieur de bâtiments. Son activité professionnelle lui interdit de se rendre à Tel Aviv. Yuval est photographe à Tel Aviv, il attend pour rejoindre sa femme et leur bébé, le bébé à Paris, un visa qui ne vient pas. Alors c'est un film sur l'absence, sur la difficulté à la vivre, quand on ne sait de l'autre que ce qu'en montre le champ d'une caméra située dans le lieu de vie de celui-ci, avec toutes les doutes, les inquiétudes, les questionnements résultant de cette connaissance tronquée de la vie de son ou de sa partenaire. Communication rompue brutalement, appel refusé, repas ou fêtes de famille auxquelles on assiste passivement et très loin, visite surprise inattendue d'un inconnu. Bon, il y a sans doute quelque chose d'un peu artificiel dans ce procédé systématique, mais depuis la pandémie, ce genre d'artificiel n'est-il pas entré dans notre vie avec ce mot affreux de distanciel? Au fond, réalisé avant le cataclysme Covid, ce film a quelque chose de précurseur sur l'évolution d'une société où la relation humaine se limite de plus en plus à un échange entre caméra et écran. Voilà, je crois que le temps est venu de nous quitter sur Fréquence Protestante. Merci à Françoise, à Marie-Jeanne et à Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui l'ont écouté et que nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission Chant contre Chant qui aura lieu le mardi 24 novembre de 13h15 à 14h.